Europe 1. La libre antenne. Catherine Blanc.
Ravie de vous retrouver sur cette libre antenne d'Europe 1. Nous avons deux petites heures devant nous, mais toute une éternité de possibles à qui sait s'en saisir. C'est au 39-21 que la nuit porte conseil, car vous pouvez m'y joindre pour évoquer ce qui vous tourmente ou vous déstabilise. Louise Krutener écrivait « La nuit, l'inconscient se venge ». À moins qu'il ne tente tout simplement de se débrouiller de ce que le jour provoque ou suppose d'enjeux incontournables pour tenter un équilibre même précaire, même douloureux. Mais heureusement, il nous appartient la liberté d'éclairer ce qui est à l'œuvre dans nos peines et nos désordres, de sorte que nous puissions nous munir de balanciers pour avancer plus paisiblement sur le fil, funambule que nous sommes tout à notre humanité. Eh bien, pour un peu de lumière, cette libre antenne vous propose son 39-21, où je vous attends. Mais si vous préférez être une petite luciole à mes côtés, cette nuit, je vous invite à faire l'envoi de SMS au 739-21, suivi du mot « nuit » en lettres capitales et de votre message. Frédéric Dervin, ce soir, est encore aux manettes de cette émission et au standard, Fanny et Kelvin vous attendent au 39-21. Le premier qui appelle est le premier qui passe à l'antenne, alors appelez vite, je suis là, je vous attends. La libre antenne, c'est maintenant.
Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1.
Et nous recevons Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir Catherine. Je vous remercie de m'accorder l'antenne pour m'exprimer.
Mais je vous en prie, elle est là pour cela.
Oui, je voulais faire réponse à une auditrice qui a appelé il y a 2 ou 3 jours et qui avait très peur de la vaccination parce qu'elle avait une maladie que je ne connais pas. Donc, je voulais lui dire que beaucoup de personnes avaient peur. Et moi en premier, parce que j'ai perdu mon mari le 30 juin suite à la deuxième injection de Pfizer. Il a été vacciné le jour de l'Ascension et le lendemain matin, il a été subitement pris de vomissements. Ces vomissements se sont reproduits dans la soirée. Le samedi, il n'était pas tellement bien, mais n'a pas vomi. Le dimanche, il était complètement fiévreux, mal. Il s'est couché, on lui a pris sa température. Il avait 38, presque 39. Mm-hmm. Et là, je lui ai dit, il faut appeler un médecin. Il me dit, oh non, c'est certainement une conséquence du vaccin. Nous avons attendu la nuit et le lendemain matin, il avait des diarrhées, mais alors vraiment très fortes. C'est alors que j'ai appelé le 15 et que l'on m'a envoyé un médecin de SOS qui m'a dit « Madame, vous avez beaucoup attendu parce que le cœur se fatigue. » Je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire parce que entre des vomissements et de la diarrhée, je ne voyais pas le rapport. Mmh. Et c'est arrivé à la clinique, aux urgences, que là, on m'a dit « Il a eu de très fortes... pulmonaire, je trouve pas le nom.
Non, je ne peux pas vous aider.
Une infection pulmonaire. Une très très forte infection pulmonaire.
D'accord.
Alors on l'a mis en pneumologie, puis comme il supportait très mal les masques et qu'il avait tendance à les enlever, on l'a mis dans une petite unité de soins où, si vous voulez, il était en surveillance permanente. Mmh. Là, il est resté quelques jours et il a failli déjà partir parce que 2 antibiotiques ont été essayés, lesquels n'ont donné aucun résultat. Mon fils, qui est à 800 km, est venu. Et là, on leur a dit, un soir, on les a appelés très tard, à 11h, pour leur dire, voulez-vous que l'on radie votre papa? Ils sont allés en vitesse, très très rapidement, à la clinique, et là, on leur a, je crois qu'un médecin a eu l'idée de mettre deux antibiotiques à la fois, et c'est ce qui l'a, je pense, sauvé. Il est resté encore quelques jours dans cette unité, puis il est redescendu et est allé en pneumologie, où on a continué les soins, et ma foi, il était assez bien.
Donc ça, c'était ça a duré combien de temps, entre le moment où il est tombé malade et puis ce moment de relance?
Donc on l'a rentré en clinique le 17 mai, et il est rentré à la maison le 15 juin.
D'accord.
Donc, alors là... un monsieur qui s'occupe de l'oxygène est venu porter un appareil, lequel avait un cordon qui allait vers le séjour et l'autre dans la chambre. Mmh. Et il lui avait bien dit, le jour vous mettez la lunette et la nuit vous mettez le masque. Mmh. Seulement, il a désobéi, c'est-à-dire que il a gardé la lunette aussi bien la journée que la nuit.
Donc il avait moins d'oxygène du coup.
Il avait moins d'oxygène.
Bien sûr.
Donc le 18 au matin, c'est-à-dire nous sommes le vendredi et il est rentré le mardi, le vendredi matin, il me dit, il m'appelle puisque j'étais dans la chambre à côté, et me dit, écoute, veux-tu appeler les secours, j'étouffe, je suis très mal. Alors je recommence, je fais le 15, et cette fois il arrive les pompiers qui me disent il désature, il faut vraiment l'amener le plus vite possible au CHU. Mmh. Là on le met aux soins intensifs, où il est resté quelques jours. Là il a encore vomi et eu diarrhée. Mmh. À partir de ce moment-là, il avait déjà pas beaucoup d'appétit, et puis en plus c'était sans sel, donc... il perdait des forces. Et enfin, un soir, j'étais là, présente, quand ils lui disent, bien écoutez, on descend dans une chambre normale, il y a du mieux, on finit les soins intensifs. Donc, on la met dans une chambre conventionnelle, et là, ça a été pendant... deux à trois jours, mais il s'alimentait très peu, il mangeait surtout les desserts, il n'avait pas du tout d'appétit, et ils me disent, d'autres soirs, il va falloir le remettre aux soins intensifs, car il y a un peu d'eau encore dans les poumons, et le cœur n'est pas au top. Mmh. Donc nous remontons aux soins intensifs, et là, il s'est éteint le 30 au soir, voilà.
D'accord.
Alors, que ce soit la famille, que ce soit les amis, le voisinage, tout le monde est stupéfait de ce décès. C'est pas que l'on veut dire que mon mari n'avait pas de grosses pathologies, parce qu'il avait eu également, en 2015, un début de cancer de la prostate. Mmh. On lui avait fait des rayons. À la suite de ça, il avait eu une chose assez rare, d'après l'urologue, il avait eu un abcès dans la prostate qui mesurait 7 cm. Mmh. Donc, il le lui a raboté. Puis alors, en plus, en tant qu'ancien fumeur, il avait de l'artérite. Et également, depuis 3 ans qu'il avait arrêté, il avait pris près de 10 kilos. Mmh. Donc, il était complètement asphyxié. Et là, je n'ai parlé à son médecin traitant, parce que je trouve qu'il n'a pas été assez énergique. C'est-à-dire que nous avons pris un rendez-vous, je crois, en avril, avec le pneumologue, qui m'ont dit un rendez-vous pour septembre. Donc, avec un homme qui était comme ça, mais vraiment, il avait des difficultés respiratoires. Je ne comprends pas qu'on l'ait vacciné, la personne qui a fait le vaccin, je suis étonnée qu'elle ne se soit pas rendue compte que mon mari avait des difficultés respiratoires.
Mmh. Alors,
voilà, j'en suis là et personnellement, je vous avoue très franchement que ce n'est qu'accompagnée de 2 gendarmes que je me rendrai à la vaccination. J'ai pour ma part, et ma fille m'avait également inscrite, et à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais des problèmes. J'ai eu une douleur dans la poitrine, mais assez haut, vous voyez, très près du cou, ce qui m'a fait penser, comme je suis assez rhumatisante, que c'était des rhumatismes. Et j'ai trop tardé à voir là aussi mon médecin, et je lui avais parlé seulement en février. Là, il m'a fait venir, il m'a fait l'électrocardiogramme, et il m'a dit qu'il faut rentrer en urgence. Je suis entrée en urgence, là j'ai vu le cardiologue, qui m'a dit, après plusieurs jours, je ne trouve rien de vraiment, vos électros sont à peu près, on peut dire, normaux, il va falloir faire une coronarographie. Et pour cela, il faut prendre rendez-vous à l'hôpital, donc ce sera dans 3 semaines. Et en faisant la coronarographie, ils se sont rendus compte que j'avais une artère bouchée et l'autre rétrécie. J'ai donc subi, on m'a donc mis 3 stents.
D'accord.
2 pour la bouchée et 1 pour la rétrécie. Et vraiment, je suis restée pantoise parce que j'ai eu une petite vie. Vous savez, je n'ai jamais fumé. Je ne peux pas dire que j'ai fait des abus, quels qu'ils soient. Et le médecin m'a expliqué, mais madame, vous avez 85 ans, le sang épaissit, les artères se durcissent et il n'y a rien de... Il y a d'autres personnes comme vous qui subissent cette chose-là. Il n'y a rien d'anormal. Mais est-ce que si j'avais été vaccinée avant, j'ignorais que j'avais ça, donc est-ce que j'aurais pu avoir comme mon mari un problème de cet ordre-là?
Alors, d'abord, avant tout, Michel, je tiens à vous présenter mes condoléances parce que votre mari est décédé il y a très peu de temps et vous êtes tout encore à la stupeur de...
Oh, je suis dévastée.
Mais je comprends. Et de fait, cette histoire de vaccination ne fait qu'aggraver évidemment les choses parce que elle vous fait... C'est déjà difficile d'accepter la mort. La fin de la vie de celui avec qui on a partagé sa vie, mais quand on a le sentiment qu'elle est accélérée, que ce soit vrai ou faux, hein, nous n'avons pas les compétences, ni vous ni moi, scientifiques, pour savoir ce qu'il en est réellement, même si vos doutes sont tout à fait audibles et mériteraient effectivement un peu plus de recherche dans ce domaine pour savoir de quoi il s'agit exactement et de la responsabilité, bien sûr. Mais pour l'heure, évidemment, petite personne que je suis à l'autre bout de ce micro, je ne peux pas en dire grand-chose, si ce n'est que je comprends que tout d'un coup, les choses se précipitent justement quand on fait un vaccin et qu'on estime, enfin qu'on a le sentiment, puisque c'est comme tel qu'il est vendu, on a le sentiment qu'il est justement protecteur. Après, il est protecteur peut-être de ce dont il s'agit, à savoir du Covid, mais peut-être pas de tout. Et peut-être est-il en effet, fait-il flamber des pathologies qui sont là dormantes ou plus dormantes d'ailleurs, puisque vous disiez que votre mari a d'autres pathologies. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'à ce moment-là, vous savez, quand on perd aussi subitement quelqu'un qui... avait des symptômes, mais vivait avec ses symptômes. Il n'y avait pas d'aggravation, il n'y avait pas d'accélération. Tout d'un coup, évidemment, la responsabilité pointée est une responsabilité qui met en colère. Et il ne faudrait pas que ça vous fasse faire des vieux os vous-même et que ça vous rende malade. Hein. Et donc, tout ça est assez difficile. Je crois que c'est un sujet délicat et je trouve important et bien que vous puissiez aussi vous exprimer, puisque en ce moment, la France me semble très fracturée entre... Deux discours et fondamentalement agressifs les uns vis-à-vis des autres, au lieu d'écouter la légitimité des peurs ou des besoins de protection des uns, ou au contraire les adhésions et les besoins de protection des autres d'autres manières. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux discours, il y a un mot d'ordre, mais il y a deux discours et chacun s'exprime sur son discours, et je crois que c'est important. C'est important de pouvoir s'exprimer. Du coup, je vous remercie d'ailleurs de votre témoignage. Je crois que sur cette libre antenne, beaucoup de témoignages sont un coup d'un côté, un coup de l'autre. Je crois qu'on peut comprendre une idée sans avoir à l'accepter. Hein. Donc, nos auditeurs qui écoutent peuvent entendre votre inquiétude sans avoir à y adhérer, mais en tout cas l'entendre et respecter et que votre témoignage soit une occasion pour moi de dire que accordons-nous les uns et les autres la liberté de la pensée de l'autre,
parce que
l'autre a le droit de penser différemment. Ce n'est pas une attaque. C'est ce qui se joue pour lui et sa façon de gérer ses propres inquiétudes, ses propres peurs. Certains courent au vaccin par peur et d'autres fuient le vaccin par peur. Et toutes les peurs sont légitimes, bien évidemment. Et nous ne sommes pas scientifiques pour arbitrer de la justesse exacte. Et c'est ça toute la difficulté, bien sûr, et nous devons nous en remettre. Donc évidemment, chacun de nous, nous tentons de trouver où est notre juste place et ce que nous devons faire pour nous et pour les autres. Mais d'où votre peur ?
Vous voyez, dans la famille ou l'environnement, j'ai une petite voisine qui était très très souvent chez nous, elle nous portait le pain, elle sort le petit chien avec moi, en fait très très proche comme de la famille. Pour elle, c'est pareil, elle pense comme nous, qu'on nous l'a tué, quoi, qu'on nous l'a... Voilà.
Ah ben c'est sûr que c'est tellement...
C'est moche de rester sur une idée comme celle-ci, quoi.
Mais bien sûr. En fait, ce qui est difficile à déterminer, c'est est-ce que c'est, comme vous dites, le vaccin qui a tué votre mari, ou est-ce que le vaccin a fait un croche-patte à quelqu'un qui n'avait pas la capacité de se relever ? Parce qu'évidemment que ça sollicite le système immunitaire.
Il a trouvé un terrain propice.
Oui, bien sûr. Et ça pose évidemment toute la question, mais ça c'est une question...
Les femmes peuvent en discuter, évidemment.
Bien sûr, mais encore une fois, même la communauté médicale elle-même réfléchit de manière différente et se divise. Il y a beaucoup de tensions quand il y a... C'est assez curieux que dans un moment comme ça aussi, où notre monde est fragilisé, où notre peuple est fragilisé, c'est tellement dommage qu'à ce moment-là, on ne s'unisse pas. Même dans des pensées divergentes, s'unir, c'est pas nécessairement adhérer, c'est pas une voie unique, c'est réfléchir, s'enrichir les uns et les autres, ne pas chercher à avoir raison, chercher à trouver les solutions et les solutions adaptées à tous. Or, le problème, c'est qu'il n'y a aucune solution bonne pour tout le monde, puisque nous n'avons pas tous la même histoire, nous n'avons pas tous la même anxiété, nous n'avons pas tous le même corps, la même génétique. Donc, une solution pour l'un n'est pas la solution pour tous. C'est pour ça que même quand on fait des études sur un médicament, le médicament n'agit pas sur tout le monde. Il est en échec sur certains. Et ça, c'est la part un peu inconnue de la singularité de chacun d'entre nous. Et c'est très difficile quand tout d'un coup, une loi se fait pour tous, sans exception.
C'est certain.
Et donc, vous avez... Aujourd'hui, comment d'abord, outre, vous avez beaucoup à faire avec ce deuil.
Je dois voir le cardiologue, justement, et je vais lui demander, en raison de ce que j'ai eu, si il faut me vacciner ou pas. Voilà, je vais demander. En plus, là, je ne vous cache pas que je suis dépressive.
Mais je comprends bien.
Donc, compte tenu de ces deux choses-là, est-ce qu'il faut me vacciner ou pas ? Je ne voudrais pas faire comme mon mari, bien sûr.
Bien sûr. Et surtout que les choses sont toujours difficiles. Comme vous le disiez, vous avez déjà une fragilité, une pathologie. Vous venez d'être opéré. Votre corps a déjà subi beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une piqûre de moustique, un vaccin. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il fait des ravages. Mais tout dépend de la compétence que nous avons en termes d'énergie. Oui. Est-ce que c'est le bon moment pour vous ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un meilleur moral pour ne pas ensemencer, même psychiquement, l'idée d'une impossibilité, l'idée d'une dangerosité ? Parce que
j'ai très peur, je fais comme la personne il y a quelques jours. Là.
Oui, je comprends.
J'ai très peur, évidemment.
Bien sûr, je comprends, et c'est tellement légitime,
Bien sûr. Et on ne sait comment faire, parce que avoir le Covid, vous ne vous en sentez pas non plus.
Bien, certains s'en sortent. On ne meurt pas automatiquement. Mais effectivement, là encore...
À mon âge,
voilà. En fait, c'est pas que vous ne pourriez pas vous en sortir, c'est que, encore une fois, c'est la même chose que pour cette histoire de vaccin. C'est que vous avez des pathologies, des fragilités, et le coup de pouce du Covid, est-ce que votre corps a assez d'énergie pour s'en défendre, ou est-ce qu'au contraire, le Covid vous met en grand péril, voire effectivement vous tue. C'est vraiment un arbitrage que seuls des médecins éclairés et qui prennent le temps de réfléchir peuvent... Et la confiance que vous leur accordez. Faire. Je crois que important, c'est de...
Oui, il va me dire ce que je dois faire.
Voilà, c'est pas seulement ce qu'un médecin vous dit, c'est un médecin en qui vous avez confiance. Et ça, c'est important.
Oui, j'ai confiance en lui, oui. Non. Je pense que je... Oui.
Et peut-être lui suggérer, est-ce qu'il y a péril en la demeure ou pas? Vous êtes amené à voyager, vous êtes amené à voir du monde, vous êtes amené à...
Non, c'est ce que je voulais vous dire également, parce que nous sortions très peu. Nous sommes en réalité, nous étions des confinés. Nous sortions, vous savez, uniquement, enfin presque uniquement, pour les courses, quoi. Mm-hmm. Aller au centre commercial... à la charcuterie, et puis c'était à peu près tout. Mmh. Vous voyez, nous sortions très peu, et avec nos masques, nous étions quand même bien confinés.
D'accord, et vous avez l'intention de le rester encore, là? Vous êtes encore convalescente, là?
Oui. Surtout avec ce qui a l'air de se préparer, là. Oui. Ah oui. Là, je vais être confinée, ma fille, qui n'est pas loin d'ici, me portera ce qu'il faut. Mais je sortirai très peu, si ce n'est le petit chien avec lequel je fais un petit tour tous les soirs.
Bien sûr, ce qui est d'ailleurs très bien aussi pour votre santé. Vous avez besoin de vous oxygéner, c'est important de prendre l'air, surtout pour cet état déprimé, dépressif dans lequel vous êtes actuellement. Parce que là, on cumule un peu les difficultés. Il y a d'abord le chagrin de la perte de votre mari.
Énorme.
Mais bien sûr, vous avez...
Le chagrin est immense.
Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est votre cœur, enfin en tout cas vos artères qui tout d'un coup se sont serrées. Vous savez que souvent on dit, quand on a des chagrins comme ça, comme si le cœur était oppressé. Et vous voyez que vous avez eu des symptômes qui en ont témoigné d'une certaine manière par ce resserrement de ces artères sur lesquelles il a fallu mettre des stents pour justement vous permettre de retrouver... votre élan, l'élan de ce moteur qui est votre cœur. Hein. Donc c'est votre cœur qui a été atteint au décès de votre mari.
Il a saigné mon cœur, j'ai l'impression.
Oui. Ah oui, vous voyez, c'est symboliquement...
Mon chagrin est très, très... Il est immense.
Mais je comprends, Michel.
Nous avions 55 ans de mariage et nous entendions bien, quoi.
Mais bien sûr.
Voilà.
Mais bien sûr, et c'était tout à fait légitime. Et même quand se chamaille, on n'est pas prêt à se quitter. Et surtout pas.
C'est très, très difficile. Très dur, très difficile.
Vous arrivez un peu à projeter votre vie sans lui. Là, il y a l'immédiateté du Covid
et
de.
Pas du tout. Je pense que peut-être me rapprocher de mon fils qui est à 800 km et qui est dans le Midi.
D'accord.
Et vous voyez, j'ai beaucoup aimé, c'est une région où j'ai vécu 30 ans, mm-hmm. J'ai eu beaucoup de bonheur parce que j'ai rencontré mon mari et j'ai eu mes enfants également là-bas. Mm-hmm. Donc c'était du bonheur pour moi, cette région.
Et vous êtes prête
à
changer de vie.
Et je crois que j'irai retrouver mon garçon là-bas.
Et alors, mais est-ce que vous avez des amis ou vous n'avez que votre fils là-bas?
Oh non, il y a beaucoup d'amis.
D'accord.
Il y a beaucoup d'amis parce que mon mari... Il travaillait, il avait un bureau d'études dans la construction, donc il nous reste, j'ai prévenu pas mal de personnes déjà. Nous avons encore beaucoup de personnes qui sont, j'en ai appelé encore une ce soir, là, qui étaient navrées, mais qui n'arrivaient pas à croire que c'était possible.
Mmh. Oui, je comprends. Donc en fait, aujourd'hui, évidemment, comme vous ne pourrez très certainement pas démêler le vrai du faux de cette histoire, les conséquences, mais vous aurez toujours cette suspicion et cette inquiétude. Or, il faut que cette inquiétude, au moins pour vous, s'apaise, pour que vous puissiez d'abord dire au revoir paisiblement à votre mari qui, selon vos croyances, selon votre sensibilité, vous accompagne encore aujourd'hui ou pas, selon comment vous l'entendez.
Elle l'a dit, je m'excuse. Bon, lui-même dit, parce qu'il a tout le temps été conscient,
oui.
Et il me disait, le produit en question là, a trouvé un terrain propice,
d'accord.
Dans, avec des poumons.
Mmh.
Donc, mais il le disait lui-même.
D'accord. Oui, donc voilà, lui il avait il s'est rendu compte de ce qui était en train de se jouer en lui. En tout cas, c'est comme ça qu'il a voulu l'entendre. Il a quand même, notons que votre mari était un coquin tout de même, hein, parce que
c'est un coquin. Il me disait mourir du Covid, bon, très bien, mais mourir du vaccin, ça fait pas sérieux quand même.
Il avait de l'humour, votre mari.
Oh, il a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Oui.
C'est bon aussi de se souvenir de ça. Ça permet de voir les choses, de prendre un peu de recul par rapport aux choses, pour un peu adoucir. Adoucir les choses. Mais aujourd'hui, maintenant, il va falloir faire le temps de ce deuil. J'entends que vous avez...
C'est très difficile.
Bien sûr.
Lorsque le soir tombe, c'est là que c'est le plus difficile.
Bien sûr.
Il y a un manque, mais alors... vous savez, il était le pilier. Il avait toujours été le pilier dans sa famille. Maintenant, les enfants avaient pris leur envol. Mmh. Mais... il restait le pilier, quoi.
Oui.
Papa avait dit ça, bon, c'était bien, quoi. Voilà.
Bien sûr, bien sûr.
C'est très difficile.
Vous étiez très dépendante de lui, je veux dire, dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous
pas
avez...
Pas tellement, parce que j'avais passé mon permis de conduire, et n'avais jamais conduit. Donc, je dépendais de lui pour bien des choses, parce que nous habitons un quartier qui est hélas comme beaucoup de quartiers où tous les petits commerces sont fermés.
Mmh.
Donc il faut prendre sa voiture et aller au centre commercial qui est, je ne sais pas, 1,5 km, 2 km.
À peu près.
Donc dès que je voulais faire quelque chose, j'avais besoin de lui pour... il m'arrivait d'aller prendre le bus, mais qui est assez loin également,
mmh.
et qui, vu mon âge, commence à devenir un peu compliqué.
Bien sûr, mais je comprends, Michel.
Voilà. Mais je le fais quand même encore pour marcher.
Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien.
J'ai vraiment besoin, par exemple, en ce moment, j'ai besoin de refaire ma carte d'identité, donc je vais à la mairie avec le bus.
Bien sûr.
Et je vais à mon rythme, et voilà, je...
Bien sûr.
Ça va, mais je trouve qu'il faut marcher.
Ah, mais vous avez raison, il faut
garder. Je ne suis pas la personne à rester devant un ordinateur, voilà.
Non, mais vous avez raison, surtout que c'est le meilleur moyen pour procrastiner, c'est le meilleur
moyen
pour être déprimé.
Et puis avec mon problème cardiaque, là, il m'a bien recommandé.
Oui. Oui, il ne faut pas vous demander des exercices de jeûnette, mais pour autant, il vous faut marcher, il vous faut respirer
à
bien.
À mon rythme de marcher un peu tous les jours.
Bien sûr,
voilà.
Bien sûr, Michel. Et puis,
je suis aidée par mon petit chien là,
qui est une motivation.
Qui m'invite à sortir.
C'est bien.
Voilà.
Il est une motivation, il est plein
de... Et qui est aussi une compagnie.
Bien sûr.
C'est un petit King Charles et c'est un pot de colle. C'est plein d'amour.
Oui, ça c'est merveilleux, les animaux
sont adorables.
Sont des boules de tendresse et d'amour.
Absolument.
Quand les hommes oublient parfois de se les procurer, de se les échanger, de se les donner, les animaux, eux n'oublient pas. Et ça c'est assez merveilleux.
Vous savez, souvent, il met sa tête sur mon front. Là.
Mm-hmm.
Il se met sur l'oreiller, il met sa tête sur mon front.
Mm-hmm.
C'est très affectueux. Là.
Bien sûr. On pourrait prêter des tas de pensées à cela, comme une façon de s'entendre de l'intérieur.
Oui,
en quelque sorte,
je pense qu'il souffre également.
Bien sûr.
Je vois qu'il est triste et je crois qu'il a bien compris ce qui s'était passé.
Mmh. Non, mais
oui,
ça n'a pas douté. C'est-à-dire que vraiment, les animaux ne sont pas des objets, hein. Ce sont des petites vies avec des neurones qui sont très agissantes et qui sont très au fait de ce qui se passe.
Oui, il a très très bien compris. Il se mettait très souvent sur les genoux de son maître.
Mmh.
Et il aimait beaucoup son maître, et son maître également l'aimait beaucoup. Donc il y a là, il y a quelque chose qui se passe. Oui.
Et donc
nous sommes tous les deux dans la tristesse, voilà.
Oui, vous partagez votre tristesse.
Nous partageons,
C'est ça. Et d'une certaine manière, allège un peu en l'apportant un peu lui-même.
C'est vrai, c'est vrai.
Il vous invite à la vie par les besoins de promenade.
Oui, il a un peu plus de 4 ans en plus.
D'accord,
il est encore tout jeune.
Oui.
Voilà.
Donc il va falloir évidemment tout doucement remonter la pente de la vie, sortir de cet état de tristesse mêlé de déprime inévitablement. Il va falloir aussi réparer retrouver vos forces.
Oui, mais c'est difficile à 85 ans, vous savez. Il faut dire la vérité, on s'approche de la porte de la sortie.
Oui,
j'en suis consciente. Hein. J'aimerais rester encore un peu avec mes enfants, mais le chemin qui me reste à faire, que j'ignore d'ailleurs, me paraît difficile et presque insurmontable.
Et pourquoi vous paraît-il difficile ? Est-ce par incapacité de faire avec la solitude ?
De vivre sans lui.
C'est ça, c'est la solitude, c'est ça.
Ah oui, oui. J'arrive très mal à vivre sans lui.
Et oui, je comprends. Je comprends, c'est toutes vos habitudes qui sont perturbées. D'où le besoin peut-être de changer de lieu pour justement qu'il
peut-être.
Soit moins associé à tout ça.
J'essaierai afin de voir si, en m'éloignant et en retrouvant le pays où j'ai vécu 30 ans, je vais trouver un peu de, je dirais pas de joie de vivre, mais de accepter la vie, quoi, qui me reste. Je veux voir ça.
Et vous avez commencé à regarder votre fils s'en occupe, ou est-ce que c'est pour l'instant que dans votre tête ?
Nous étions à Antibes.
D'accord.
C'est une très, très, très jolie petite ville.
Oui, très.
Et que j'aime énormément. Alors peut-être que cette ville va m'aider à... C'est là que j'ai rencontré mon mari, je vous dis. J'ai eu mes enfants, mes enfants sont nés là. Peut-être que tout cela me permettra de faire ce petit bout de chemin qui me reste.
Votre fille vous encourage à cela, ou est-ce qu'elle peine
mon fils aimerait que je sois près de lui. Oui,
votre fils, mais votre fille qui est aujourd'hui à vos côtés, est-ce qu'elle vous encourage
également ? Ma fille également. Oui. Parce que je vis dans un très grand appartement. C'est d'ailleurs trop lourd à porter financièrement, car il est très gourmand en chauffage. Il est haut de plafond, vous voyez. Il y a un grand couloir, donc il est... Et elle me dit, tu vas t'ennuyer. De plus, c'était l'appartement de mes parents que nous avons repris parce qu'il est de plein pied. Et si vous voulez, je vois pas mal de fantômes. C'est lourd, quoi.
Il y a trop d'histoires dans cet appartement.
Il y a trop d'histoires dans cet appartement, oui.
Et
il y a eu de belles histoires, mais il y a eu les fins de tout cela. Ils sont tous partis. Donc, je crois que j'aurais intérêt à le quitter.
Et vous voyez, c'est ce que vous dites, j'entends à la fois... la difficulté à se projeter, à voir de la vie encore pour soi, encore un bon bout de temps, et à la fois l'envie fondamentale de vivre.
Oui.
Pardon ?
Vieux.
Michel, je n'ai pas entendu ce que vous me disiez.
Voilà, donc ce sont les projets, mon âge, ce sont les projets que j'échafaude ensemble.
Oui.
Mais pour faire, je vous dis, le petit chemin qui me reste à faire.
Oui, mais si petit soit le chemin, on ne sait pas quelle est d'ailleurs la dimension, mais quand bien même il serait petit, c'est un chemin qu'il est bon de vivre, comme vous disiez tout à l'heure. Quand bien même
le
on
mieux
marche
possible.
Pas... Bien
le
sûr.
Mieux possible. Je voudrais surtout pour mes enfants ne pas être triste, ne pas être modestie.
Oui.
Et rester... à peu près en bonne santé, quoi.
Bien
pour
sûr.
Ne pas être une charge, comme tout le monde, je pense.
Bien sûr, mais bien sûr, et puis c'est désobligeant pour soi, c'est se voir dans la difficulté, dans la dépendance, dans la souffrance, se montrer ainsi, ce n'est pas très valorisant, c'est pas laisser les meilleures traces de soi. Et puis, ce que je trouve très joli dans ce que vous dites, Michel, c'est qu'il y a de toute façon en vous beaucoup, il y a quand même une appétence à la vie formidable. J'entends le chagrin, j'entends la déprime, j'entends l'inquiétude, j'entends la peur qui est la vôtre.
Voilà.
J'entends aussi le fait que vous vous laisseriez bien faire. Si on vous dit que c'est sans risque, eh bien vous ferez parce que c'est sans risque. Et à la fois, il y a quelque chose chez vous de très combatif, où vous dites, je n'irai pas si ce n'est entre deux gendarmes, et je vais aller dans le sud, parce que c'est là que c'était ma vie d'il y a 30 ans.
Ah oui, j'étais heureuse, quoi.
Bien sûr. Donc,
c'est la belle partie de la vie, quoi.
Absolument. Donc il y a en vous cette nécessité de vivre des jolies choses, et ça c'est formidable. C'est là-dessus, vous savez. Qu'est-ce qui fait la différence? Moi, j'ai souvent été frappée quand il m'est arrivé d'accompagner des gens malades ou mourants. J'ai toujours été frappée du mauvais caractère ou du tempérament affirmé des gens même très, 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 très malades. Et tant qu'ils étaient comme ça, d'une certaine manière, ils témoignaient de leur combat pour la vie. Que ce soit pas toujours très gentiment ou très joyeusement, mais du combat pour la vie. Et pour certains, tout d'un coup, ils lâchaient prise. Et ils se laissaient aller, ils se laissaient flotter.
Oui.
Et d'une certaine manière, ils renonçaient à la vie. Et je crois que c'est important, ce temps de vie, il est le vôtre. Personne ne doit vous le souffler. Et vous ne devez pas y renoncer parce qu'il y a manifestement en vous justement cette joie envers et contre tout. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de désolation, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur. Mais il y a une envie de vivre, Michel, et dont vous avez témoigné ce soir, y compris en faisant ce témoignage pour tous ceux qui étaient en doute et qui, du coup, écoutant votre message et votre inquiétude, eh bien, vont s'interroger pour leur propre liberté.
Je vais retourner, si je peux y aller,
oui.
Je veux retourner à l'endroit même où j'ai rencontré mon époux il y a 55 ans.
Eh bien, je vous invite, Michel, à y retourner et à lui dire bonjour de notre part, parce que peut-être vous attend-il quelque part dans vos pensées quand vous y serez, qu'il vous suivra.
Ça fera beaucoup de bien.
Absolument. Eh bien,
je revivrai cet instant.
Eh bien, c'est ça, avec joie et avec peut-être larmes, mais avec...
Ça a été une soirée que je n'oublierai jamais, et ça me fera plaisir de la revivre, des années après.
Eh bien, je vous le souhaite. Je vous souhaite une très bonne soirée, et encore une fois,
je vous remercie.
Je vous envoie tout mon courage.
Beaucoup,
je vous souhaite mon courage.
Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée également.
À vous aussi, Michel. Prenez grand soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Et nous nous retrouvons sur cette libre antenne. Je vous rappelle le numéro 3921 si vous voulez me contacter pour pouvoir échanger avec moi sur tous les sujets qui vous préoccupent ou qui vous mettent en joie. Parce qu'il n'y a pas que les chagrins que nous pouvons évoquer, bien évidemment. De même, vous pouvez faire vos témoignages pour permettre aux uns et aux autres qui n'osent s'exprimer eh bien, de faire écho à leurs propres réflexions et nourrir leurs réflexions ainsi. Vous pouvez aussi envoyer des SMS. Vous êtes un peu discret sur les SMS ce soir. Je vous rappelle que c'est le 73921. Suivi du mot « nuit » en capital et de votre message. Si vous voulez réagir à ce qui est dit à l'antenne ou si vous voulez nous passer le moindre message, même en décalé avec ce qui est dit à l'antenne. Voilà, nous recevons à présent Marie. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Oui, je vous remercie. Et vous, Marie ?
Ça va, ça va.
Alors racontez-moi, de quoi parlons-nous ? Dites-moi.
Alors, moi, je vous appelle parce qu'en fait, je rencontre certains problèmes vis-à-vis de ce sujet-là. En fait, je vous explique. Avant de parler de la sexualité, je ne savais pas ce que j'étais. Je ne savais même pas que ça existait. Et je pense que j'en suis... Enfin, je ne dis pas que c'était pas du tout une maladie. J'ai vu que c'était une orientation, du coup, sexuelle. Et je voulais savoir, du coup, comment est-ce qu'on pouvait savoir où l'était, en fait.
Alors, je ne comprends pas bien, Marie. En fait, vous voulez savoir quoi ? Vous parlez d'orientation sexuelle. Vous avez le sentiment, vous pensiez que c'était une maladie de ne pas être orientée de façon hétérosexuelle, c'est ça ? Vous êtes homosexuelle, vous ?
Non, Du tout. En gros, je vous explique.
Voilà. Expliquez-moi.
J'ai un copain.
Oui, vous avez.
J'ai un copain, il n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà, je n'ai jamais ressenti quelque attirance sexuelle que ce soit. Pour... envers quelqu'un, en tout cas. C'est très rare. C'est très, 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 très rare.
Y compris pour votre copain.
Non, mon copain, lui, il a une attirance au libido, tout à fait normal, etc.
D'accord. Et vous, vous avez une attirance pour lui ?
Moi, j'ai une attirance romantique, c'est-à-dire que...
C'est ça, voilà, c'est très bien. C'est
ce qui me plaît, etc. Je suis amoureuse de lui.
Oui.
Mais du côté, du coup, de la sexualité, c'est totalement différent. C'est même c'est déséquilibré déjà de un. Mais je sens que c'est moi qui ai très, 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 très peu de libido.
D'accord, très bien. Vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 21 ans.
Vous avez 21 ans, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas qu'avec votre copain, c'est quelque chose de toujours. Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être animé de libido, animé de désir sexuel.
Exactement. Je pensais qu'avant, c'était lié du coup, au sentiment que je pouvais ressentir envers mon partenaire qui n'est pas celui qui... avec qui je suis actuellement.
Oui.
Et je me rends compte que même quand je suis amoureuse, il n'y a pas forcément d'évolution. Vis-à-vis de ce... Enfin, sur ce point-là, en tout cas. Donc, je voulais savoir, du coup, est-ce que on peut poser un diagnostic sur les personnes qui sont asexuelles ? Comment est-ce qu'on peut savoir si on est asexuel ? Parce que, du coup, c'est ce que je soupçonne, en quelque sorte.
Alors, c'est une question très intéressante et je vous remercie, Marie, d'en parler parce que souvent, les gens ont beaucoup de frilosité à oser parler de sexualité, comme si c'était honteux, parce qu'on a tendance à lire un peu à droite et à gauche que tout le monde s'en sort très bien, que c'est facile pour tout le monde, et à tel point que du coup, il faut que naissent des courants qui se disent « nous, on n'est pas de ce genre-là, ou on n'est pas de ce rythme-là, et donc on est peut-être asexué ». On fait des mélanges parce que finalement, on laisse à penser que la sexualité est un élan facile, spontané, naturel. Or, là, ce qui est naturel, c'est effectivement un élan de reproduction, mais nous ne sommes pas des animaux. La sexualité, c'est beaucoup plus précieux que ça, beaucoup plus riche et donc beaucoup plus torturé, puisque ça veut dire qu'on va vers l'autre, au-delà de la notion sexuelle, on va vers l'autre pour plein de projets, dont celui de la sexualité potentiellement, mais dans votre cas, pour tous les autres projets, sauf celui de la sexualité. Et évidemment que comme notre société laisse à penser que tout le monde a envie de faire l'amour tout le temps, vous vous sentez complètement en décalé par rapport à cela, et vous vous raccrochez à un mot, un nom qui court dans les magazines et très justement, c'est-à-dire moi je ne suis donc pas sexuelle, je suis asexuelle, je n'ai pas de sexualité. Alors essayons de remonter un petit peu les choses parce que d'abord quand vous disiez de dire un diagnostic qui serait donc le vôtre, qui permettrait de mettre une étiquette, moi j'ai tendance à ne pas vouloir mettre d'étiquette parce que ce serait vous enfermer. C'est plutôt essayer de comprendre ce qui est à l'origine de ce qui se passe pour vous. Et on va essayer d'avancer un petit peu ensemble là-dessus, ce qui permettra d'éclairer un certain nombre d'autres personnes dans la même situation que vous et qui souvent souffrent parce qu'ils ont l'impression de ne pas arriver à rejoindre l'autre à un rendez-vous que tout le monde dit extraordinaire alors que aucun élan en eux ne vont dans cette direction-là. Alors, d'abord, il faut dire une chose, Marie, vous êtes toute jeune, vous avez 21 ans. Des gens de 21 ans, vous avez tout le temps de vous construire, d'où l'importance de ne pas mettre des étiquettes collées à la superglue. Mais pour autant, il y a des gens de 21 ans qui sont excités comme des puces, sans même prendre le temps de se rencontrer, de s'aimer, mais qui veulent faire l'expérience de la sexualité pour la sexualité. Et puis d'autres, bien avant d'ailleurs, dès leur puberté, sont très sont dans les starting blocks pour se dire vivement quand je serai grand pour pouvoir le vivre. Donc effectivement, il y a des rythmes différents selon les individus. Mais ce qui fait notre sexualité, ce sont deux choses. D'une part, un élan physiologique, donc ça pose la question de notre organisation hormonale, alors quand je dis hormonale, c'est pas que génitale, c'est aussi toutes les hormones qui gèrent notre pulsion de vie, notre joie à la vie, notre sentiment d'être, notre confiance en nous, toutes ces hormones cumulées participent de notre désir sexuel. Donc elles peuvent être en difficulté au niveau de votre cycle, par exemple, vous pouvez avoir un cycle qui est perturbé ou pas. Est-ce que, par exemple, ça, tout fonctionne bien depuis longtemps ou est-ce que vous subissez des hauts, des bas, des absences? Comment les choses se passent pour vous de ce point de vue-là?
Au niveau du cycle hormonal?
Oui.
C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est déséquilibré. C'est pas équilibré, quoi.
D'accord, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça marche, et des moments où ça ne marche pas, ça disparaît, ça revient, c'est ça. D'accord.
Exactement, ouais.
D'accord. Donc déjà, là, avant de faire de la psychologie qui serait de la psychologie de kiosque, il faut d'abord voir la réalité du corps, les compétences qu'a le corps pour pouvoir s'exprimer dans la sexualité. Parce que contrairement à nos autres pulsions, à savoir la pulsion de respirer, de déféquer, uriner, l'urgence de manger, tout ça c'est vital, donc le corps se met en branle immédiatement pour pouvoir subvenir à sa survie. La sexualité n'est pas vitale, si ce n'est du point de vue de l'espèce, pour se reproduire. Mais sinon, on peut vivre toute une vie tout à fait confortablement, sans risquer quoi que ce soit et aucune maladie, sans jamais faire l'amour. On vivra et on mourra comme tout un chacun, mais nous ne laisserons pas nos gènes derrière nous. Donc ce n'est pas une obligation de faire l'amour, quoi que puisse en dire notre société qui le met très très en avant. Donc pour ce faire, dans la mesure où votre corps est pour X raisons qui seraient à définir évidemment là auprès d'un médecin, d'un gynécologue par exemple, dans la mesure où votre corps est déséquilibré, connaît des déséquilibres, votre corps essaie de se dépatouiller comme il le peut et évidemment il n'a pas nécessairement l'énergie pour mettre en place ce qu'il lui faudrait pour que sa sexualité tourne confortablement ou s'exprime confortablement. Donc, il me semble que la première des choses, avant de vous mettre une étiquette sur le front, ce serait déjà de mettre votre corps en paix, en équilibre, pour que vos règles viennent comme elles doivent venir, ni en douleur, parce que là aussi, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses, qu'elles ne viennent pas, parce que c'est plutôt confortable de pas les avoir, parce qu'on se dit, voilà, je suis pas embêtée. Sauf que c'est un cycle qui ne se fait pas, un cycle qui s'éteint, qui se rallume, qui s'éteint, qui est pas très, très fixe et qui raconte un déséquilibre corporel. Donc, il me semble important de faire déjà un petit check de ce côté-là, quel qu'en soit le résultat, enfin pas pour obtenir la sexualité, mais pour être dans votre équilibre personnel. Jusque-là, vous me suivez?
Oui.
Est-ce que, donc, voilà, parce que là encore, est-ce qu'au niveau alimentaire, vous êtes quelqu'un qui mangeait, vous mangez peu, comment vous êtes, je ne sais pas, dites-moi un petit peu, c'est parce que je ne vous vois pas, donc je ne vous vois pas physiquement.
Oui. En fait, ça varie en fonction de ma période de règles, en fait. Pendant
D'accord.
mes règles, je mange énormément.
Oui.
Mais les trois autres semaines, ça va être assez peu. Ça va pas être équilibré. Je prends pas trois repas par jour, quoi. C'est vraiment, je mange quand j'en ai envie. Je fais 1m60 pour 50 kilos.
D'accord.
Du coup, mon IMC est... dans la normale.
Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais savoir, c'est parce que là aussi, vous comprenez que pour qu'un corps fonctionne bien, il faut pouvoir manger. Alors, il y a ceux qui mangent trop et il y a ceux qui ne mangent pas assez. Et quand c'est de pas assez, bon, vous n'êtes pas dans le cadre de quelqu'un qui serait anorexique, mais vous voyez bien qu'il y a des moments où vous mangez. Certes, comme vous voulez, vous avez raison, on n'est pas obligé de manger tous les repas pour tous les repas, mais il est important d'avoir des protéines, d'avoir tout ça qui permet des protéines, des vitamines, qui permettent au corps de pouvoir fonctionner correctement et pour que votre équilibre physiologique puisse se faire, se mettre en paix, pour que votre corps, parce que sinon le corps, évidemment, il s'économise, il ne s'épuise pas à créer des ovocytes. Il a tendance, s'il manque de certaines choses capitales pour lui, il a tendance à mettre en veille certains fonctionnements, dont votre fonctionnement hormonal notamment. Donc ça, c'est quelque chose D'accord. sur lequel il vous faudrait être vigilante, faire un petit bilan au niveau chez votre gynéco, faire un petit bilan peut-être un peu plus général chez un généraliste, ou pour voir un peu comment vous fonctionnez, regardez aussi et ne pas oublier de regarder ce que vous consommez, parce que ce que vous mangez a une incidence directe sur votre état d'être, aussi bien en termes moraux qu'en termes physiologiques. D'accord ?
D'accord.
D'accord, ok.
Alors okay. Maintenant, pour revenir sur ce qui est la partie psychologique. Comment la sexualité, depuis que vous êtes petite, vous la regardez comment ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dégoûte ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez été bousculée par des discours, par des images, par des situations, par des accidents de parcours ? Quelle a été un peu votre histoire autour de ce sujet ?
Ben en fait, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne me suis jamais posé de questions, que ce soit sur la sexualité ou la sexualité en général, en fait. Ça n'a jamais été un sujet qui m'intéressait.
Oui.
Ça ne m'a jamais vraiment intéressée, donc je n'avais pas d'avis, du coup, ni sur la sexualité, ni sur la sexualité, du coup.
Mm-hmm.
Et à partir du moment où j'ai eu un copain, ça m'a posé énormément de problèmes, parce que j'avais l'impression, entre guillemets, de ne pas être normale.
Parce que lui a une attente à laquelle vous n'arrivez
déjà
pas à répondre.
Donc, une attente que... Enfin, on va dire que là, actuellement, ce que je ressens actuellement, c'est vraiment, quelque chose que je ne peux pas donner. Quelque chose qu'on attend de moi que je ne peux pas donner. Donc, c'est plus de la frustration, plus qu'un jugement que je vais porter, par exemple, vis-à-vis des autres, de la société en général. Mais c'est vraiment au sein de mon couple. Donc, je sens que mon copain a des attentes que je ne peux pas lui apporter.
Mmh.
Et c'est plus ça qui me pose problème. Et j'ai l'impression de, entre guillemets, de ne pas être normale. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est pas aussi facile que les autres, quoi.
Bien sûr, je comprends très bien ça. Parce que, évidemment, alors d'abord, est-ce que c'est votre premier petit ami ou vous en avez eu d'autres et que c'est le même scénario qui s'est joué ? Ou vous n'en avez pas eu, puisque vous n'aviez pas de désir, et du coup, vous n'avez pas créé de lien.
Alors, j'ai eu un premier petit copain, mais j'avais pas de sentiments, donc je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Mais oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais aucune attirance, mais je mettais ça, du coup, sur le coup de mon manque de sentiments.
Mm-hmm.
Mais maintenant, je suis dans une relation où je suis totalement épanouie, où je ressens des sentiments amoureux pour cette personne.
Mm-hmm.
Et, c'est toujours le même problème.
Et lui, il parle de sexualité ?
Bien sûr, oui, bien sûr, on en parle. Mais depuis que je me suis rendu compte que... je trouvais toujours des excuses, en fait, à mon manque de libido. Je trouvais toujours des excuses, c'est-à-dire mm-hmm. qu'un coup, j'étais fatiguée, un coup, c'est parce que je prenais la pilule, un coup, c'est parce que c'était religieux, un autre coup, enfin voilà, mais je sentais bien qu'en fait, au fond de moi, il y avait vraiment...
Il y a un starter qui ne se fait pas, en fait.
C'est ça, exact. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à en souffrir, entre guillemets, de mm-hmm. cette situation,
mm-hmm.
De ne pas me sentir à la hauteur, etc., mon copain et moi, on a décidé de faire, entre guillemets, un vœu d'abstinence.
D'accord.
Jusqu'à qu'on puisse expliquer déjà pourquoi est-ce que... Enfin, d'expliquer et de trouver aussi des solutions, même pas pour moi me donner plus de libido, mais simplement pour essayer de trouver un équilibre entre lui et moi.
Bien sûr, pour que vous ne vous sentiez pas harcelé, lui harceleur, contre son gré.
Exactement,
donc c'est un pacte que vous vous faites pour pouvoir développer toute la relation amoureuse en connaissance de cause.
C'est ça, exact.
Oui, c'est très...
Et depuis ce moment-là, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, parce que chaque soir je me disais, mais un couple normal l'aurait fait et moi je peux pas le faire.
Mm-hmm.
Donc c'était vraiment une pression au quotidien, tous les jours.
Merci.
Alors que la pression ne venait même pas forcément de lui, hein, ça venait vraiment de moi. Et maintenant qu'on a décidé, qu'on s'est mis d'accord lui et moi, la question ne se pose plus, donc moi je vais beaucoup mieux du coup.
D'accord, et vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Ça va faire 9 mois.
9 mois, d'accord. Et alors, vous avez une fratrie, des sœurs, des frères, ou vous êtes fille unique ?
J'ai 2 petits frères.
2 petits frères, d'accord. Donc, eux ne sont pas encore dans cette préoccupation, ils ne sont pas encore en train de créer des relations, des couples, etc.
Non, pas pour l'instant. J'ai un petit frère de 17 ans,
oui.
Mais qui n'est pas en relation, qui ne l'a jamais été d'ailleurs. Et
d'accord.
J'ai un petit frère de 10 ans, donc...
Donc, votre frère de 17 ans, lui-même, n'a jamais flirté, enfin, il n'a jamais eu une petite copine ou un petit copain, d'ailleurs.
Non.
Non,
un petit copain, mais non.
D'accord. Alors, dites-moi un petit peu, Marie, dans quel contexte avez-vous grandi? Quels parents? Quel discours autour du sujet de la sexualité? Quelle relation de vos parents entre eux? De votre relation avec vos parents? Quelle tendresse ou pas? Enfin, comment les choses se sont passées pour vous?
Alors, on ne parle pas du tout de ça. C'est oui. un sujet tabou vis-à-vis de la religion. Mm-hmm. C'est un sujet tabou. Après, on ne m'a jamais mis de pression par rapport à ça. On ne m'a jamais interdit d'en parler. C'est juste qu'on n'en parlait pas et moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Mes parents, je les ai toujours connus en conflit.
Oui.
Donc, je n'ai pas vu de tendresse entre eux ni d'amour. Mmh. Mon père et moi, on n'est pas en contact du tout.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai des vagues souvenirs de lui quand j'étais enfant, mais ça s'arrête là.
Parce que
je ne me rappelle pas de quelconque relation que j'ai pu avoir avec lui.
Pourtant, il est à la maison. Vos parents ne sont pas séparés.
Non, mes parents ne sont pas encore séparés, oui. Ils sont séparés, mais ils ne sont pas encore, oui. Du coup, moi, je ne vis plus avec mes parents.
D'accord.
Donc, j'ai quitté le domicile familial il y a quelques années, oui.
D'accord. Donc, vous étiez toute jeune. Vous aviez quel âge?
J'avais 17 ans.
17 ans, d'accord. Et vous êtes partie parce que c'était les études ou la vie active qui vous a fait partir, ou c'est parce que vous avez fui cette ambiance familiale?
Conflit familial, enfin conflit avec mon père.
D'accord.
Et c'était soit lui, soit moi, et c'est moi qui suis partie.
D'accord. Et ce conflit, il est sur quoi? C'est sur un autoritarisme de sa part? C'est sous fond religieux ou pas du tout? Enfin, il y a la religion là-dedans? D'accord.
Oui. C'était ça, exactement.
Et une autorité qui revendiquait quoi? Enfin, vous avez eu le sentiment de quoi? Parce que...
C'était du manque de respect. C'était vraiment une volonté de montrer que c'était lui qui décidait à la maison et que c'était comme ça et pas autrement. Et moi, c'est quelque chose qui passe pas. J'ai vraiment du mal... pour moi, quelqu'un qui réclame du respect doit
être respectueux
les autres. Mmh. Et respecter les autres, être respectueux, mais inspirer aussi le respect. Et de par ses actions, il ne m'inspirait pas de respect. Donc, c'était vraiment très compliqué. On a le même tempérament, plus les conflits familiaux qu'il y a pu avoir, plus les manques de respect auxquels j'ai dû voir, en fait. Mmh. Au quotidien.
Entre qui et qui? Entre lui et votre mère ou...
Oui, principalement. D'accord. Et ensuite, entre lui et ses enfants, donc du coup, moi et mes frères. Mmh. Et après, moi, ma mère, elle est plutôt calme et elle ne rentre pas trop dans le conflit. Et je me suis sentie l'obligation de lui dire les choses. Mmh. Mais du coup, c'est pas passé. Et il m'a vu. J'ai dit, il m'a viré de la maison, quoi.
D'accord.
Mais voilà.
D'accord. Et ça, c'est une histoire qui ne démarre que dans votre adolescence, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été toute votre... Vous avez le sentiment toute votre enfance que ce papa a toujours agi avec cet autoritarisme, qui d'ailleurs, vous savez, quand on est trop dans l'autoritarisme, c'est une preuve de faiblesse. Hein, c'est qu'on veut imposer un pouvoir dont on doute, parce que si on a le pouvoir... Quand je dis le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir de la légitimité de sa position. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Et d'ailleurs, les enfants entendent et reconnaissent et respectent cette autorité. L'autoritarisme n'est pas une preuve de force, c'est une preuve de faiblesse.
Oui.
Donc, cette position-là, c'est une position que vous avez toujours connue de votre père, dont vous avez vu votre maman... subir ou souffrir la situation, les conséquences, la situation?
Ouais, toujours, oui. Depuis que je peux comprendre, depuis que j'ai la capacité de comprendre ce qui se passe autour de moi, ouais. Mm-hmm. J'ai toujours eu ce ressentiment-là. C'est juste que quand j'étais jeune, j'étais trop jeune pour parler. J'avais aussi la peur, il y avait aussi, il fallait être courageuse quand même pour s'opposer à son père, etc.
Bien sûr.
J'ai senti que j'avais la force nécessaire de le faire, je l'ai fait. Voilà. Mm-hmm.
Et alors, vous êtes née dans... Parce que vos parents, ils se sont aimés, j'imagine, ou pas? Ils se sont aimés, ils se sont désirés, ils ont désiré un enfant ou pas? Comment ça s'est passé? Vous êtes née dans quel contexte, vous?
Moi, mes parents... mes parents, c'est un mariage d'amour. Et c'était, oui, c'était une volonté de fonder une famille, etc. Ça s'est plus détérioré au fil des années, après ma naissance, du coup. Après la mienne et celle de mes frères.
Après la dernière naissance ou dès la première naissance?
Non, je dirais peut-être dès la première.
D'accord.
Mais ça faisait... ils m'ont eu à 28 ans, ça faisait depuis 16 ans. Enfin, ils avaient 16 ans quand ils se sont mis ensemble.
D'accord.
Donc,
Et donc, ce mariage d'amour, c'était aussi bien du côté de votre papa que du côté de votre maman?
Oui.
Et comment vous comprenez que tout d'un coup, ça est tourné au vinaigre?
Je peux même pas l'expliquer. Je sais pas du tout. Je sais pas. Parce que moi, j'ai toujours connu en conflit, en fait. Mmh. J'ai toujours connu comme ça. Donc, je crois ma mère quand elle me dit qu'il s'aimait avant. Je la crois totalement. Mais du coup, j'ai jamais vu ces preuves d'amour-là. Je les ai jamais vues. Donc, je sais pas.
Et comment comprenez-vous que votre maman soit restée avec votre papa?
Je dirais l'habitude, déjà. L'habitude, je dirais aussi, je pense qu'elle s'accroche à des souvenirs, entre guillemets, ouais. Mm-hmm. Elle s'accroche à des souvenirs qu'elle a bien vus, parce que c'était vraiment... je sais qu'ils étaient vraiment très, très amoureux. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'elle espérait que ça s'arrange un jour ou l'autre. Mm-hmm. Et aussi pour les enfants, parce que pour elle, des enfants... Enfin, si ses enfants pouvaient avoir... ses deux parents, c'était l'idéal.
Mmh. Bien sûr, je comprends. C'est intéressant, si je vous pose ces questions qui ont l'air d'être très loin de notre sujet de départ, c'est pour essayer de comprendre un peu comment les enjeux pour vous de la sexualité. Parce que vous voyez, alors quand je dis de la sexualité, il faut que je le dise plus lentement, de la sexualité, puisque comme on parle d'asexualité, on peut faire des confusions. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que je recherche. Donc, si vous permettez, je vous mets un tout petit peu en pause, le temps qu'on écoute une publicité. On est obligé d'y passer, que voulez-vous? Et on se reprend toutes les deux pour aller plus avant sur votre histoire, d'accord?
Pas de souci.
À tout de suite, Marie.
La libre antenne d'Europe 1, Catherine Blanc, accompagne vos nuits.
Marie, vous êtes toujours là? Allô, allô?
Oui, allô?
Oui, Marie. Non, je vous en prie. Alors, je profite de reprendre maintenant l'antenne pour vous dire que nous étions, pendant notre conversation, nombre de SMS sont arrivés. Le sujet, justement, de l'orientation, qui n'est évidemment pas une maladie, comme le dit très justement Théodora. Donc, c'est juste une organisation, ça c'est moi qui le complète. C'est une organisation psychique pour répondre aux enjeux de la relation, pour accueillir les possibles du corps. Bien évidemment que ça n'a rien à voir avec une maladie. Et ça, c'est important. Donc, il n'est pas question de vous étiqueter de quelque manière que ce soit, et surtout pas sur un terme qui serait un terme de maladie. Qu'est-ce que nous avons également Alors, il y a Lisa qui dit que vous soyez hétéro, bi, lesbienne, asexuelle. Eh bien, vous pouvez explorer vos fantasmes. Et je crois que Lisa, évidemment, n'entend pas que la difficulté, c'est la pulsion sexuelle elle-même. Et donc, les fantasmes ont du mal à pouvoir exister, puisque pour l'instant, vous ne cherchez que des choses qui sont de l'ordre, justement, que, d'ailleurs, c'est très bien, qui sont de l'ordre du romantique et de la tendresse, et surtout éloignées de la sexualité. Du coup, évidemment, les fantasmes n'ont pas lieu de vous questionner en ce moment, bien sûr. Et puis Tony qui nous dit que une personne apprend tous les jours à se connaître et une vie entière ne peut pas suffire pour se connaître. Donc vivez à fond l'instant présent. Et donc je rajouterai, merci Tony, et je rajouterai que donc si l'instant présent c'est de la tendresse et de la qualité de la relation, eh bien ça c'est d'une grande richesse évidemment. Nous avons également Sophia qui dit qu'il n'y a pas de femmes frigides, il y a des hommes maladroits. Mais encore une fois, là, on n'est pas dans le sujet puisque cet homme est très adroit, puisqu'il a accepté de faire un pacte envers et contre son propre désir pour continuer à préserver une qualité de relation avec vous. Donc voilà. Et puis encore Théodora qui revient sur son clavier et qui dit qu'une femme peut être clitoridienne ou vaginale ou anale ou les trois à la fois et que vous devez apprendre qu'une dame doit apprendre à connaître son corps. Mais encore une fois, nous ne sommes pas encore sur ce sujet, Théodora, puisque la question de la sexualité n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, donc pour les petits SMS, merci d'ailleurs à vous auditeurs pour vos réactions. Vous étiez timide sur d'autres sujets, des sujets du deuil, qui sont des moments plus difficiles. Et le sujet de la sexualité est un sujet qui nous concerne tous et sur lequel nous avons tous à réfléchir, parce qu'il n'est pas, il ne coule pas de source, contrairement à ce que l'on pourrait penser ou que l'on nous fait croire. Alors revenons à vous, Marie. Je vous posais des questions un petit peu sur le contexte de votre vie, de votre venue au monde, de la relation parentale, tout simplement parce que nos parents sont les premiers référents de l'idée que nous faisons de l'amour. Et de l'amour, de ses possibles, et de la sexualité qui doivent les concerner, puisque même si les enfants ne sont pas au fait de ce qui se passe dans une chambre à coucher, ils interprètent au travers de la qualité de la relation ce qui peut s'y jouer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la sexualité est un mélange d'élan physiologique, mais sur lequel se juxtapose une lecture de ce que cela va représenter ou risquer ou permettre. Et donc, en l'occurrence, là, ce que vous venez de dire me semble une première piste à explorer, en tout cas que je vous invite à explorer, c'est que finalement, ce que vous m'avez dit, c'est que vos parents se sont aimés depuis l'âge de 16 ans et ceci longuement, jusqu'au moment où ils ont eu des enfants, à savoir à commencer par vous. Du coup, vous n'avez qu'une lecture du couple parental. C'est un couple en conflit, c'est un papa qui peine à trouver suffisamment sa place pour avoir besoin de la dire très fortement, ouvertement et de peut-être de façon tyrannique ou excessive, si ce n'est pas tyrannique. Ça, c'est la lecture que vous avez, vous, de la relation de vos parents, avec une mère qui arrondit un peu les angles, qui est plutôt douce et chaleureuse à l'égard de ses enfants, mais qui a perdu le lien avec son mari. Alors, ce qui est intéressant, d'abord, il faut savoir que ça concerne malheureusement énormément de couples, parce que souvent, les mamans, à l'occasion de leur maternité, trouvent le lien de tendresse, de chaleur, d'intimité avec leurs enfants, tellement de plaisir que souvent, d'abord elles sont aussi fatiguées, très sollicitées par leurs enfants, mais souvent désinvestissent un peu la sexualité parce qu'elles sont d'abord aux soins de leur enfant et aussi au plaisir de ce qu'elles créent dans le lien avec ces petits êtres issus d'elles. Et ça, c'est assez logique, hein, on le comprendra. Vous m'entendez bien, Marie, parce que votre téléphone...
Oui, je vous entends.
Oui, d'accord. Donc ça, on peut évidemment très très bien le comprendre. Et souvent d'ailleurs, les papas sont assez perdus et souvent en deviennent agressifs parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un peu été éliminés dans l'histoire. C'est ce qui fait souvent leur débordement et leur autorité, comme pour rappeler que ce sont eux les premiers de la liste, eux avant tout, eux qui dirigent. Et c'est souvent ce qu'il fait du coup une façon tout à fait inappropriée de fonctionner avec leur épouse et par voie de conséquence avec leurs enfants qui deviennent un peu comme des rivaux, vous voyez ?
Oui.
Et donc ce que là vous me dites, c'est que vous avez l'idée que un couple s'entend qu'à la condition de ne pas avoir des enfants, un couple est heureux et amoureux qu'à la condition de ne pas avoir des enfants. Or, vous voyez ce que vous me disiez, Marie, c'est que vous êtes sans désir sexuel, comme si vous préserviez justement ce qui pourrait donner lieu à des enfants. C'est-à-dire que c'est comme si vous restiez dans quelque chose de totalement asexué, comme une maman avec ses enfants, ou comme le couple parental qui s'est aimé dans leur jeunesse, avant de passer à la construction d'un couple et d'une famille, et donc d'une sexualité pour construire cette famille, qui a amené au chaos de la relation.
Ouais.
Vous voyez, c'est comme si d'une certaine manière, vous préserviez votre relation, puisque vous disiez à un moment, c'était très joli, vous disiez c'était ou lui ou moi, comme si finalement, qui allait rester auprès de maman, ou lui ou moi, et vous entreteniez une relation asexuée bien sûr avec votre mère, et d'une certaine manière, soit vous reproduisez la relation de l'enfant que vous avez été avec sa maman, donc une relation asexuée, soit ce que vous imaginez de la relation idéale du couple parental, c'est-à-dire en amont de leur parentalité, c'est-à-dire pour s'assurer qu'on reste bien en amont de la parentalité, c'est surtout sans sexualité. C'est-à-dire que le meilleur contraceptif est encore l'absence de sexualité.
Ouais.
Et du coup, votre cycle, il se désorganise, parce que justement, le cycle, c'est ce qui est à l'origine de la fertilité. Donc, comme par hasard, votre cycle fait n'importe quoi, il fait la Java. Et comme il fait la Java, vous n'avez pas du tout de bonne maîtrise de ce que pourrait entraîner une sexualité avec un cycle qui, un coup, fonctionne, un coup, dysfonctionne. Comme si vous vouliez vous empêcher toute fertilité, puisque c'est ça qui rompt le charme de la relation.
Oui.
Donc, en fait, vous restez dans le domaine complètement énamouré, complètement romantique, tendre, soutenant, qui s'éloigne de ce qui ferait le chaos, comme si vous vous accusiez, vous en tant qu'enfant, d'être l'origine du chaos de la relation amoureuse.
Ok. Oh, bah, oui, j'avais jamais vu ça comme ça, ouais. J'ai essayé de trouver des solutions, enfin des explications surtout. Pourquoi j'avais pas eu de réponse précise, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Je savais pas que je voyais déjà la relation des parents de cette manière.
Mais ça vous parle, ça vous paraît? Parce qu'il n'est pas question d'abonder dans mon sens si vous trouvez ça complètement berlu, hein, bien sûr. Hein. Mais de ce que j'entends, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez décrit vraiment une histoire un petit peu... Vous savez, un peu comme dans les contes, c'est, il y a toute une histoire merveilleuse avec le prince, la princesse, et puis après ça se termine par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Et alors là, oui. On n'en entend plus parler, c'est-à-dire que ça se termine, l'histoire se termine.
Oui. Oui. Et c'est moi, comme si... de base, oui, j'avais plus pensé, du coup, bah, en fait, je sais que... Enfin, du coup, j'y ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit que c'était peut-être dû au fait... que j'étais très complexée vis-à-vis aussi de ce sujet-là. Oui. C'est-à-dire que vis-à-vis de moi-même, je trouve ça, par exemple, la sexualité, je trouve ça embarrassant, par exemple. Alors que ça ne me dérange pas d'en parler. Ça ne me dérange pas. Mais, par exemple, du coup, je ne vais pas juger la personne qui est en face de moi. Je ne vais pas juger les personnes qui pratiquent parce que sinon, je jugerais toute la population. Merci. Mais, du coup, moi, je me juge moi-même, en fait.
C'est ça, mais bien sûr, mais vous vous jugez. Mais comme d'une certaine manière, vous semblez vous être jugé depuis le départ, c'est à la fois vous jugez de ne pas être comme les autres, à la fois dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous étiez à l'origine du terme d'une relation amoureuse. Donc d'une certaine manière, vous vous flagellez beaucoup et vous vous privez. Pas question de vous vendre la sexualité comme un truc formidable, parce que la sexualité peut être absolument formidable, ou peut-être une aventure qui se construit pas à pas, ou peut-être ennuyeuse pour certains, mais c'est une occasion d'en faire autre chose que ce qu'ont fait vos parents. C'est pas simplement un coït à but de reproduction, c'est aussi une façon de se parler par la sexualité, par le corps. Nous sommes en conversation l'un avec l'autre. Encore une fois, la question de l'hétérosexualité ou l'homosexualité, c'est le même. C'est-à-dire que dans la vie amoureuse, la vie corporelle, c'est une autre façon de se parler, c'est une autre façon de converser. C'est découvrir la multitude de vos compétences à rentrer en relation avec l'autre. Or là, c'est un peu comme si vous vouliez protéger ce qui vous paraît être le plus précieux. Comme si la sexualité était quelque chose presque de mécanique, sans feu d'artifice, sans émotion, qui faisait tout d'un coup réatterrir sur le plancher des vaches avec des marmots dans les pattes et une relation qui s'éteint en quelque sorte.
Oui.
Donc voilà Marie, c'est une première idée, je vous laisse y réfléchir, je vous laisse peut-être laisser ça cheminer. Si jamais d'ailleurs vous faites des rêves à la suite de notre échange, quand je dis des rêves, je ne parle pas de rêves érotiques, mais si vous faites des rêves de quelque ordre que ce soit, n'hésitez pas parce que même à me recontacter, que ce soit pour passer à l'antenne ou pas d'ailleurs, parce que ça nous permettra de voir si ce que je vous disais est sur la bonne piste, parce que votre inconscient, très naturellement, va essayer de répondre à cette proposition que je viens de faire, et où il bottera en touche, où il alimentera un peu plus et vous permettra de comprendre un peu plus loin et ne pas en rester simplement à un regard de jugement sur vous-même.
D'accord, ok. Ok, bah alors je reviendrai vers vous, du coup, je vais bien y réfléchir et je vais voir.
Voilà, comme vous le disiez sur la sexualité, ne vous jugez pas. Et ne jugez pas ce que vous venez d'entendre, laissez-le cheminer tranquillement. Si ça n'a pas sa place, ça disparaîtra. Si ça a sa place, ça vous ouvrira des portes.
D'accord, nickel.
D'accord.
Nickel. Bon, merci beaucoup.
Je vous en prie, Marie. Passez une très bonne soirée et peut-être à bientôt.
La libre antenne d'Europe 1, Catherine Blanc.
Et nous reprenons maintenant avec une nouvelle auditrice, avec Catherine. Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir. Bonsoir, Catherine.
Oui, on est deux Catherine, c'est très bien. Nous devons être de la même génération, à mon avis.
Peut-être, je sais pas.
Il y a des grandes périodes de Catherine, et donc, manifestement, nous sommes de la même génération.
D'accord.
Alors, racontez-moi, que se passe-t-il? Dites-moi.
Alors, c'est pas très grave. C'est une histoire de... J'ai des problèmes parfois avec certaines femmes.
Mmh.
En fait, je me rends compte que tout d'un coup, je vais me retrouver face à certaines femmes. Donc, je commence à repérer un petit peu le profil, je dirais.
Oui.
Et je me sens à la fois un peu en concurrence. Je me compare à elles, forcément.
Mmh.
Et je me trouve toujours, mais carrément inférieure. Ne pas arriver à peine à la cheville de cette personne.
Mmh.
Que j'en vis. Donc à la fois c'est une forme d'admiration.
Oui.
À la fois c'est une forme de situation qui me met qui me bloque parce que j'ose pas faire quoi que ce soit. J'ai à la fois envie d'être appréciée mais ne pas, bon, en tout cas ne pas être désappréciée.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs.
On comprend, vous inquiétez pas.
D'accord, c'est l'essentiel.
Absolument.
Et du coup, ça me bloque, je ne suis pas moi-même, et ça m'énerve. Et donc, je commence à être d'un certain âge, on va dire, puisqu'on est de la même génération.
Mm-hmm.
Et ça m'arrive encore, hein. De temps en temps, ça m'arrive, hop, je tombe sur quelqu'un et ça va m'arriver encore.
Et alors justement, puisque vous me dites avoir un peu repéré le profil de celle qui génère à la fois fascination, rivalité d'une certaine manière, et puis finalement malaise et dénigrement de vous, quel est ce profil? Qu'est-ce que vous avez repéré?
Parfois, j'ai repéré que ça pouvait être une femme soit assez grande ou à peu près de ma taille,
mm-hmm.
Ou avec un poste d'autorité ou, je dirais, un peu de confiance comme un médecin.
D'accord.
Et qui n'est pas forcément autorité dans l'autorité hiérarchique.
Mm-hmm.
Mais ça peut être aussi une autorité... voilà, une autorité, un chef éventuellement.
Mmh.
Et c'est souvent des gens que je trouve, alors au niveau de la voix, une certaine douceur.
Oui.
Mais aussi d'un calme. Genre, il n'y a pas de feu au lac, quoi. C'est toujours imperturbable, toujours bien posé, toujours ce qui n'est pas du tout mon cas. Et je pense que j'aurais voulu être comme ça, moi.
Mmh.
Et je me dis, mais alors je suis encore loin du chemin, quoi, ou de mon objectif.
Mmh.
Et ça me ramène justement à t'es
loin
d'être à la hauteur, quoi.
Oui, un dénigrement de vous.
C'est plutôt négatif. Ouais.
Oui. Et alors ça, c'est quelque chose qui s'est fait jour dans votre vie d'adulte ou est-ce que c'était déjà dans votre enfance ce rapport à l'autre et une observation de votre compétence ou incompétence?
Alors dans l'enfance, je me souviens pas trop. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais toujours décrite comme la timide.
Oui.
Mais je me souviens pas de... Je pense que j'ai pas été timide dès mon plus jeune âge. Je pense que c'est apparu un petit peu après, genre... je ne sais pas, 8-9 ans, un truc comme ça.
Et 8-9 ans, pourquoi? C'est une école particulière, une classe particulière? Il y a des événements particuliers à la maison? Il y a des changements de vie? Qu'est-ce qui se passe à 8-9 ans pour vous?
Alors oui, c'est vrai que 8-9 ans, il y a donc j'ai une sœur jumelle.
Oui.
Qui, bien qu'on soit jumelles, est plus plus en quoi, elle est pas plus en difficulté. Si, elle a un petit peu plus en difficulté scolaire et puis surtout elle est un peu plus fragile, elle est malade, elle demande un peu plus de soins par rapport à ma mère.
Mmh. Et vous avez quelle relation avec elle? Donc vous avez une relation de proximité ou de distance, comme...
Alors, elle, ma mère ou ma sœur?
Votre sœur.
Plutôt de proximité. D'accord. Et on se protège toutes les deux mutuellement.
D'accord. Et avec votre maman, quel lien entretenez-vous ou avez-vous entretenu?
À la fois de une forme de proximité quand même. Elle était plutôt accessible,
mm-hmm.
Mais quelqu'un aussi. Alors avec une voix douce justement je trouvais, et qui par contre parfois avait des moments de panique,
mm-hmm.
qu'elle exprimait dans la voix, alors des trucs tout bêtes, hein, mais j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais voilà, c'est un changement de ton qui fait moi, ce dont je me souviens, c'est que parfois, se dire bah, ça va, il n'y a pas de quoi paniquer, quoi. Mmh. Ah, bah tiens, voilà, si, bon, non, c'est un exemple moyen, parce que là, moi, j'en ai pas.
Bon, votre exemple ne vous plaît pas, d'accord.
Non, parce que c'était par rapport aux chiens, mais elle peut avoir peur des chiens, et on voit très bien, par exemple, si, alors, vous voyez un chien qui arrive, mais vous. La queue qui se balance droite à gauche, on sent qu'après un vu, il a l'air plutôt gentil, il demande des caresses, et ben elle va plutôt ah là, attention, là il y a un chien, bon voilà, c'est plutôt une attention, il faut se méfier des chiens, alors que petite, elle a eu un chien et elle n'a pas eu de soucis avec un chien. Je sais pas d'où vient cette panique, mais et alors que moi j'adore les chiens.
D'accord. Et pour revenir sur... D'abord, avant de revenir sur votre sœur, vous êtes que deux ou vous avez d'autres frères et sœurs?
J'ai également deux frères.
Deux frères aînés, d'accord. Oui. Et avec lesquels vous entretenez quel genre de relation?
Alors, je dirais par rapport à ce que je peux voir un peu dans mon entourage, que j'entretiens une bonne relation de frère à sœur.
Oui.
Ils ont... Alors qu'avec ma sœur, c'est une relation plus... plus proche, quoi, plus de couple.
Oui, d'accord, plus fusionnel.
J'ai jamais trop su ce que c'était fusionnel, donc quoi, ça me donne pas toujours une image. Moi, je disais toujours complice, mais je pense qu'il y a du fusionnel, oui.
D'accord, non, mais c'est peut-être.
En tout cas, maintenant, moi, je trouve qu'on a plutôt une complicité que de la fusion.
D'accord. Et alors, quelle est la fragilité de votre sœur? Que lui est-il arrivé ou qu'a-t-elle? Depuis combien de temps? Est-ce depuis la naissance ou est-ce que ça s'est fait en cours de route?
Non, elle a une petite malformation cardiaque qui fait que... je crois que ça a été repéré assez rapidement, qui fait que l'opération a eu lieu assez tard.
Oui.
Assez tard. À 8 ans.
D'accord.
Et donc, après, ça s'est très bien passé.
D'accord. Donc vous voyez déjà, vous entendez ce que vous avez dit à l'instant, Catherine, c'est que vous m'avez dit que finalement votre souci de relation ou d'évaluation de votre personne vis-à-vis d'une autre personne, d'une autre femme, si vous remontez dans le temps, ce n'est pas tellement quand vous étiez petite, ça a dû commencer aux alentours de 8 ans. Là, vous venez de me dire que votre sœur...
Oui, je vous ai dit ça, oui.
Ouais, c'est drôle. C'est-à-dire que vous êtes en train de me mettre sur une piste qui n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Peut-être que ça s'est passé en d'autres temps ou en d'autres rythmes. Mais alors qu'on est en train d'essayer de comprendre ce que raconte votre façon d'être dans la relation à l'autre, l'autorité de l'autre, le pouvoir de l'autre, votre difficulté, vous, d'être à la hauteur d'une certaine manière... Eh bien, vous me parlez d'un démarrage de situation qui correspond à l'opération de votre sœur. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que vous évoquez, c'est quand vous évoquez cette difficulté qui est la vôtre, vous évoquez notamment le fait que vous n'êtes pas à la hauteur de l'autre. Or, vous venez de me parler du fait que vous avez une sœur jumelle et que cette sœur jumelle est plus en fragilité que vous. Donc, celle qui est plus en force, c'est vous, justement. C'est comme si vous... Et ça, on le retrouve souvent au sein des fratries, pas nécessairement des jumeaux, mais des fratries. C'est toute la difficulté que l'on a à prendre sa place envers et contre tout, même si l'autre est en difficulté. Souvent, dans la fratrie, on vit très douloureusement le bénéfice qui peut être le sien par rapport à un autre membre de la fratrie. Et quand il s'agit là d'une jumelle, et d'ailleurs, vous avez dit, quand vous décriviez tout à l'heure le profil, vous disiez une femme grande de ma taille. Donc déjà, d'abord vous disiez grande, puis après vous disiez de votre taille, donc finalement elle vous ressemblait, qui parle, qui est calme. Alors vous dites tout l'inverse de vous, alors que vous venez de me dire que votre maman s'agitait sur des tas de sujets, bien qu'elle puisse avoir une voix très douce par ailleurs, alors que vous auriez envie de lui dire, mais il n'y a pas matière à s'énerver ou à avoir peur ou à s'effrayer. Donc vous-même, vous voyez, vous avez fait un ping-pong entre parfois vous me parlez de vous, parfois vous me parlez d'elle. Vous voyez, il y a quelque chose on voit bien pourquoi ce sont des histoires de femmes. C'est qu'il y a quelque chose qui se noue entre votre relation à votre maman et votre relation à votre sœur. Alors, si vous le permettez, Catherine, on va faire une petite pause pub et on essaie de démêler un petit peu cette histoire. D'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Catherine, vous êtes toujours là ?
Oui, tout à fait, Catherine.
Bien. Alors, justement, je regarde le chrono, je me dis qu'il nous reste peu de temps alors que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, nous allons avancer petit à petit malgré tout. Et si d'aventure je ne pouvais terminer, je vous invite à me rappeler demain pour que nous puissions terminer cette histoire parce que ce serait dommage de bâcler un peu les choses. Hein, d'accord ?
Oui, tout à fait.
Alors, d'abord, notons que vous appelez une Catherine. Alors, nous parlons de gémelléité. Vous appelez une Catherine, vous qui êtes une Catherine. Voilà que nous sommes vraiment dans de beaux draps. Franchement, c'est le hasard.
Oui, là, c'est le hasard.
Le hasard fait drôlement les choses. En tout cas, oui, il a quelque chose d'un peu moqueur de temps en temps, où il invite à certains clins d'œil. Voilà, c'est un effet hasard. Oui, dites-moi.
Si je peux me permettre,
oui.
Je vous ai entendu en replay avant, donc je ne vous connaissais pas trop, et je trouve que vous aviez une bonne analyse. Mais en fait, quand je vous parlais de boîte douce, tout ça, c'est vous qui m'avez un petit peu... ça m'a énervée.
Oui, mais voilà. Donc, mais c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, vous appelez
une Catherine. Ça m'a énervée de... Pas vous qui m'avez énervée, mais ça m'a énervée de me dire, oh ma mince, elle a l'air d'un calme, tout ça, et en plus... Bon.
Mais vous savez, j'allais vous le souffler. Je pense qu'appeler une Catherine qui se trouve être dans qui parle dans un micro, avec une voix qui essaie de se faire un peu douce, eh bien, je pense que c'était tout à fait votre sujet, que c'est pas par hasard que vous avez décidé de m'appeler, sinon vous auriez attendu la fin de la semaine pour appeler Sana. Donc, je pense que ce n'est pas complètement le fruit du hasard. Donc, voilà. Donc, c'est, si vous en êtes d'accord, nous poursuivrons bien sûr demain. Mais pour l'heure, déjà, ce que je voulais vous dire, comme ça vous y réfléchirez et puis on pourra en rééchanger, vous mesurerez un peu la portée de ce propos et vous me direz, on corrigera le cas échéant. C'est cette histoire donc de deux sœurs jumelles avec une favorisée, j'allais dire, par la nature, à savoir vous, et une défavorisée, à savoir votre sœur, avec ses problèmes cardiaques. Et puis avec tout ce que ça a pu générer de grande anxiété lors de son intervention chirurgicale pour son cœur quand elle a 8 ans, et ce que ça a pu générer de grande inquiétude pour une maman, et du coup une indisponibilité de cette maman. Donc vous savez, les enfants ont beaucoup de mal avec des histoires pareilles, parce qu'ils veulent leur maman pour eux tout seuls, et à la fois, si d'aventure il arrive quelque chose à l'autre de la fratrie, et là, qui plus est une sœur jumelle, l'enfant a très peur d'avoir été responsable de ça. Et puis si en plus, parce que l'enfant, la sœur jumelle, est fragilisée et que du coup, l'enfant que vous êtes a perdu le contact un peu avec sa maman préoccupée et anxieuse à l'idée, bien sûr, l'intervention chirurgicale de son enfant, eh bien, ça a créé une sorte de fracture, d'anxiété, de peur de votre agressivité, de culpabilité à être en bonne santé, en bonne forme. Et au lieu de continuer sur votre voie, sur votre élan et vos compétences, eh bien, vous vous êtes réduit à une difficulté. Donc, vous avez tendance à vous mettre dans le rôle de celle qui est toujours la faible, alors que dans la fratrie, vous êtes la forte, c'est votre sœur qui est la fragile. Et quand vous vous retrouvez dans une relation, comme ici avec moi, qui joue le rôle de votre jumelle par mon prénom, eh bien, en fait, vous voyez que vous êtes énervée par moi, qui est l'outrecuidance d'avoir une sorte d'aisance, une tranquillité, etc. Alors que dans l'histoire familiale, c'est bien votre sœur qui pouvait souffrir de ça vis-à-vis de vous, qui aviez un cœur qui fonctionnait bien et une santé qui était de fer. Donc c'est comme si vous vous attribuiez, et depuis toutes ces années, comme si vous vous attribuiez toujours le rôle de la blessée par culpabilité d'être la forte. Et la compétence, parce que vous avez une voix, moi je vous entends, je ne vous vois pas, je vous entends, votre voix est très douce, votre voix est agréable, et comme je vous le disais, on est toutes les deux du même temps, du même prénom, du même désir d'une certaine manière de nos parents de nous avoir nommés ainsi. Alors, je suis désolée puisque maintenant le temps se fait court, donc je vous dis, si vous le voulez bien, à demain pour que nous terminions cela. Ça vous va ?
D'accord, oui, avec plaisir.
Eh bien alors, à demain Catherine. Bonsoir.
Au revoir.
Voilà, la libre antenne se termine, mais nous nous retrouvons sans faute donc demain, à commencer avec Catherine d'ailleurs. Je vous souhaite une jolie nuit et pour cela, toute la tranquillité et la confiance du lâcher prise. Je vous propose d'ailleurs de contredire pour une fois ce qu'écrivait Joyce et reportons à demain ce que nous n'avons pas pu faire aujourd'hui. Voilà, allez tous au dodo, bonne nuit et à demain.